Jules Laforgue, Moralité légendaire, Le miracle des roses, en exergue. L'autre semi-sensitive se comporta d'une manière un peu différente, car les cotylédons s'abaissèrent dans la matinée jusqu'à 11h30, puis s'élevèrent. Mais après midi 10, ils tombèrent de nouveau, et le grand mouvement ascensionnel de la soirée ne commença qu'à 1h22. Darwin. Jamais, jamais, jamais cette petite ville d'eau ne s'en douta, avec son inculte conseil municipal, délégué par des montagnards rapaces et nullement opéra comique malgré leur costume. Ah, que tout n'était-il opéra comique! Que tout n'évolut-il en mesure sur cette valse anglaise Myosotis qu'on entendait cette année-là? Moi, navré dans les coins, comme on pense, au casino, valse si décemment mélancolique, si irréparablement dernier beau jour. Oh, cette valse, si je pouvais vous en inculer d'un mot le sentiment avant de vous laisser entrer en cette histoire. Ô Gange jamais rajeuni par les benzines, ô brillant et mélancolique va-et-vient de ces existences, ô apparence de bonheur si pardonnable, ô beautés qui vieilliront dans les dentelles noires au coin du feu, sans comprendre la conduite des fils, viveurs et muselés, qu'ils mirent au monde avec une si chaste mélancolie. Petite ville de mon cœur. Or, les malades n'y tournent pas autour des sources, tenant en main le verre gradué. C'est des bains qu'on y prend. Ose à 25 degrés, se promener après le bain, puis faire un somme. Et c'est pour les névropathes, et c'est surtout pour la femme, pour les féminines qu'ils s'en sont là. On les voit errer, les bons névropathes, traîner une jambe qui ne valsera plus même sur l'air fragile et compasser le myosotis, ou pousser dans une petite voiture capitonnée d'un cuir blasé. On en voit quitter soudain leur place pendant un concert au casino, avec d'étranges bruits de déglutition automatique. Ou soudain, à la promenade, se retourner en portant la main à leur nuque comme si quelque mauvais plaisant venait de les frapper d'un coup de rasoir. On en rencontre au coin des bois, la face agitée d'inquiétants tics, semant dans les ravins antédiluviens les petits morceaux de lettres déchirés. C'est les névropathes, enfants d'un siècle trop brillant. On en a mis partout. Le bon soleil a mis des couleuvres, des cimetières et des poupées de cire, attire aussi là, comme ailleurs, quelques phtisiques, race à part, lent mais chère aux dilettantes. On jouait dans ce casino autrefois. Ô époque brillante et irresponsable, que mon cœur de folle, que mon cœur vous pleure. Mais depuis qu'on n'y joue plus, l'ombre du prince Canino, toujours flanqué de son fidèle Leporello, quel fossoyeur incompris vous soigne, les salles en sont bien désertées, avec leurs inutiles gardiens décorés en drap bleu à boutons de métal. La salle où on lit les journaux, toujours solides au poste, eux, a toujours, pour vous en chasser, quelqu'un de ces névropathes dont le bruit de déclinition automatique vous fait tomber le temps des mains. L'ancienne salle de jeu n'a plus que des toupies hollandaises, des jockeys billards, des vitrines de l'eau pour loteries enfantines, et dans les coins, des installations pour joueurs de dames et d'échecs. Une autre salle sert de remise du piano à queue d'antan. Ô ballades incurablement romanesques de Chopin, encore une génération que vous avez entourée. Tandis que la jeune fille qui vous joue ce matin aime, croit que l'amour n'a pas été connu avant elle, n'a pas été connu avant la venue de son cœur distingué et dépareillé, et s'apitoie, ô ballades, sur vos exils incompris. Nul ne soulève aujourd'hui la draperie à fleurs fanées qui couvre ce piano d'antan. Mais les courants d'air des belles soirées hasardent d'étranges arpèges d'harmonica dans les stalactites de cristal de ce lustre qui éclaira tant d'épaules bien nourries dansant sur les airs coupables d'Offenbach. Ah, mais aussi de la terrasse du coupable casino d'antan, on a vu sur une scène et drue pelouse verte de l'Old Tennis, où toute une jeunesse en vérité moderne, musclée, douchée et responsable de l'histoire, donne cours à ses animal spirits, les bras nus, le torse altier responsable devant des jeunes filles instruites et libres, qui vont, boitant élégamment avec leurs chaussures plates, tenant tête au grand air et à l'homme, au lieu de cultiver leur âme immortelle et de songer à la mort, ce qui, avec la maladie, est l'état naturel des chrétiens. Et au-delà de cette verte pelouse de jeunesse, en vérité moderne, c'est les premières collines et la chapelle grecque aux coupoles dorées, avec ses caveaux où l'on relègue tout ce qui meurt de la famille des princes Sforza. Et plus bas, la villa X, où boude, pelétrée d'ailleurs, une reine catholique déchue, chez qui l'on s'inscrit de moins en moins, et qui croit toujours achalander comme autrefois la localité de sa présence. Et puis des collines, des sites de chromos, retouchés de donjons romantiques et de cottages à croquer. Et sur cette folle petite ville et son cercle de collines, le ciel infini dont on fait son deuil, ses éphémères et féminines ne sortant jamais, en effet, sans mettre une frivole ombre en belle entre elle et Dieu. Le comité des fêtes va bien. Nuit vénitienne, enlèvement d'aérostat. L'aéronaute s'appelle toujours Carl Securius. Carousel d'enfants, séance de spiritisme et d'antispiritisme. Et toujours au son de ce brave orchestre local que rien au monde n'empêcherait d'aller chaque matin aux sources à 7h30 jouer son choral d'ouverture de la journée. Puis l'après-midi, sous les acacias de la promenade, oh les solides de la petite harpiste qui se met en noir et se pâlit avec de la poudre et lève les yeux au plafond du kiosque pour se faire enlever par quelque exotique névropathe à l'âme frémissante comme sa harpe. Puis le soir, dans la lumière électrique obligée, oh la marche d'Aïda sur le cornet à piston vers les étoiles indubitables et chimériques. Donc, en définitive, cette petite station de luxe, la voilà comme une ruche distinguée au fond d'une vallée. Tous, des couples errants, riches d'un passé d'on ne sait d'où, et point de prolétaires visibles. Oh, que les capitales fussent de fines villes d'eau. Rien que des subalternes de luxe, gaume, cocher, cuisinier blanc sur le pas des portes le soir, conducteur d'âne, piqueur de vaches, laitière pauvetisique. Et toutes les langues et toutes les têtes qu'embellit la civilisation. Et au crépuscule, à la musique vraiment, quand, bâillant un peu, on lève les yeux et voit cet éternel cercle de collines bien entretenues, et ces promeneurs qui tournent avec des sourires aigus et pâles, on en a à la fois le sentiment d'une prison de luxe au préau de verdure, et que c'est tout des malades déposés là, des malades de romanesque et de passé, relégués là loin des capitales sérieuses où s'élabore le progrès. On soupait tous les soirs sur la terrasse, non loin, la table de la princesse T, grande brune, mal faite et surfaite, qui croyait faire de l'esprit, quelle erreur, parmi ses familiers qui le croyaient comme elle. Erreur, erreur! Et moi, je regardais le jet d'eau jaillir et monter d'inablablement vers l'étoile de Vénus qui se levait à l'horizon, tandis que, éveillant les échos de la vallée, montaient aussi des fusées telles que d'autres jets d'eau encore, mais plus congénères des étoiles aussi indubitables et chimériques à ce jet d'eau et à ces fusées. D'ailleurs, qu'à la marche d'Aïda, fulminée nostalgiquement par ce roseau pensant de cornet à piston. C'était ineffable comme tout, ces soirées-là. Vous qui y étiez, n'y aviez pas attiré votre fiancé inconnu, comme l'aimant attire la foudre. Ne cherchez plus, car celle que vous te verriez désormais ne serait qu'une autre, une pauvre autre. Oh, petite ville, vous avez été mes seuls amours. Mais en voilà assez. Depuis qu'elle, elle, avec une majuscule, est décédée, je n'y reviens guère, je ne m'y frotte guère. Oh, ce n'est pas sentimentalité, bien que la sentimentalité ne soit pas ce que 20 peuples pensent, mais je ne sais quoi qui n'a de nom dans aucune langue, de même que la voix du sang. Chapitre 2. Ce fut le jour de la fête Dieu. Depuis le matin, les vieilles cloches carillonnaient. Cloche mes cloches, divin reproche. Mais ces cloches divines contrastaient trop avec certains intérêts de mesquines réclames. En effet, il devait y avoir procession. La grande place en était la principale station. Et sur cette grande place, tous les ans, les deux hôtels d'Angleterre et de France réveillaient les pénibles rivalités de Waterloo et du Grand Prix dans la mise en scène de leur reposoir. L'opinion publique, vox populi, vox dei, donna cette fois encore la palme à l'hôtel d'Angleterre. Et de fait, outre l'arrangement classique sur le tapis à tringles de cuivre couvrant les marges du perron, des 4 tableaux de sainteté avec jardinière, de tables d'hôtes et candélabres, toutes les bougies allumées au soleil de juin, voilà que ce repère de fils d'Albion exhibait au haut de la dernière marche, dans un fouillis d'éventails de palmiers, une sainte Thérèse, la patronne de l'endroit, dont l'hystérique rococo polychrome tirait malsainement l'œil. Tandis que l'hôtel de France n'avait su que renchérir sur ses orgies de rieurs de l'année d'avant. Il est vrai qu'au 3e angle de la grande place, l'hôtel de la Duchesse H interposait pour la sauvegarde du bon ton et de l'édification des masses la sérénité supérieure d'un reposoir à lui. 3 bonheurs du jour supportant parmi des pivoines, des plumes de paon et des bougies roses, entre une sainte famille de Tiepolo et une madeleine attribuée à Lucas Cranach, le blason de la noble dame brodé sur écu de peluche amarante. N'importe, il n'y eut qu'une voix pour proclamer la victoire de l'Angleterre. Mais victoire brutale, victoire du clinquant et de paganisme, impressionniste, victoire qui sera payée cher plus tard dans un monde meilleur. Et tandis que le reposoir de l'hôtel de France, sans vouloir discuter à propos de ces charmantes corbeilles de lys qui ne filent pas, allait être le théâtre d'une seconde édition plus esthétique du miracle des roses. Oui, le légendaire miracle des roses. Du moins aux yeux de celle qui en fut l'héroïne, touchante et typique créature trop tôt enlevée à l'affection des siens et au dilettantisme de ses amis. Sur les grandes places où les hôtels d'Angleterre et de France sont à réveiller les pénibles rivalités de Waterloo et du Grand Prix, et qui va être la principale station de la procession de la fête Dieu, stationne déjà au soleil des groupes d'étrangers flambants à mode, que veux-tu, au lieu de cultiver leur âme immortelle, etc., et de simples gens locaux. C'est beau, cela, au grand soleil de juin, mais voici entrer en scène un être de crépuscule. Êtes-vous bien ainsi, Ruth ?
Oui, Patrick.
Sous le péristyle d'entrée de l'hôtel, la jeune malade s'allonge décemment en sa chaise longue, et son frère Patrick l'enveloppe bien de plaies, tandis que le portier galonné installe à sa gauche avec une giflable obséquiosité un paravent. Patrick s'assied au chevet de sa sœur. Il tient son mouchoir diaphane comme un parfum, sa bonbonnière de cachou à l'orange, son éventail, un éventail aux ironies et tristes caprices de la dernière heure, son flacon de musc naturel, le dernier réconfort des mourants. Il tient ses tristes accessoires du rôle de sa sœur. Il les tient constamment au service de ses regards, regards déjà réinitiés aux attitudes originelles d'au-delà la vie. La vie, cette diète de néant. Regard occupé en ce moment à méditer sur la nuance de main aux phalanges tristement nacrées, les siennes. Ruth n'a jamais été mariée ou fiancée, et son annulaire gauche aux phalanges tristement nacrées porte une alliance fort mince, il est vrai. Encore quelques mystères. Idéale agonisante, trop tôt enlevée au dilettantisme de ses amis, en sa robe gris de fer aux longs plis droits, un carrick de fourrure sur les épaules et au col dentelle blanche fermée, comme broche d'une vieille et mince pièce d'or aux trois fleurs de lys, cheveux d'ambre roux massés sur le front et minutieusement tressés en deux chignons, plats à la Julia Mamea, sur la nuque pure, yeux effarés, bons mais inapprivoisables, petite bouche gourmande mais exsangue, air trop tard adorable. Trop tard adorable, car comment ce teint de cire s'empourprerait-il désormais dans des scènes de jalousie? Et elle dit, sans doute pour s'écouter dire encore quelque chose, « Ah, Patrick, le bruit de ce gars me fera mourir. À côté de l'hôtel, cascade, en effet, le gave. Alors, Ruth, ne vous faites pas des idées. » Alors elle fourrage pour s'étirer l'humeur dans les fades rosetés. Le médecin lui a défendu les roses rouges couleur de sang, jonchant sa couverture à damier noir et blanc, puis conclut, comme toujours, mais avec une boue finement martyre qui dissipe tout soupçon de pose. Faible, ô Patrick, faible en vérité, comme un sachet éventé. C'est le frère et la sœur, mais de mères différentes, très différentes. Lui, son cadet de 4 ans, adolescent et noble comme un vert sapin de son pays. Ils sont descendus il y a 2 mois dans cet hôtel dont ils habitent un pavillon retiré. Oui, faible, Patrick, faible comme un sachet éventé. Trop pure, en effet, pour vivre, trop nerveuse pour vivoter, mais aussi trop de diamants pour se laisser entamer par l'existence, l'inviolable Ruth, tel un sachet, s'évente peu à peu, de station d'hiver en station d'hiver, vers le soleil ami des cimetières, des décompositions et des poupées de cire vierge. L'an passé, on la vit aux Indes, à Darjeeling, et c'est là, ô juvénile phtisique, que sa tuberculose s'est condimentée d'hallucinations. Ceci à la suite d'un étrange suicide, dont elle, déjà pourtant retirée du conflit de ce bas monde sanguin, s'est trouvée improvisée par une nuit de lune, au fond d'un jardin, l'inspiratrice éperdument involontaire et l'unique témoin. Et depuis cette nuit-là, dans le fin sang de poitrinaire qu'elle crache, elle croit toujours voir le sang rouge et passionné, le sang même de l'énigmatique suicidé, et elle délire à ce sang si radicalement répandu des choses concises et poignantes. phtisique, halluciné. Quoi qu'il en soit, du fond de tout ce romanesque, la jeune dame n'en a pas pour longtemps, comme on se permet de le siffloter dans les sous-sols de l'hôtel, à l'office. Cet étage est sans pitié. Allô ! Ainsi qu'en un rêve qui interrompt pour une saison ou deux ses voyages personnels et son développement de héros, le bon Patrick suit d'un œil fataliste les mourantes, mourantes aurores des taches hérétiques aux pommettes de sa sœur et les lunules de sang à ses mouchoirs. Il ne vit que pencher sur le bord de ses yeux, tantôt aigus comme ceux des inapprivoisables oiseaux des Atlantiques, tantôt en brouillard de goudron, et penché sur les veines bleuâtres de ses tempes, bleuâtres comme des éclairs de chaleur, et la servant à table, la promenant, lui apportant chaque matin un bouquet sans souci, lui montrant des images coloriées, lui jouant au piano les petites choses norvégiennes d'un album de Kirchhoff, lui faisant des lectures d'une voix toute spontanée. Justement, Patrick, en attendant l'arrivée de la procession, et pour ne pas faire trop attention à quelques grossiers indiscrets stationnant au bas du perron, achève à sa sœur une lecture de Séraphita. Comme une blanche colombe, une âme demeura un instant posée sur ce corps. « C'est facile à décrire, » dit Ruth. « Non, 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 c'est décidément de la basse confiserie séraphique, cette étude. Cela sent Genève où ça a été composé. Mais ce messager de lumière, qui a une épée et un casque, oh, pauvre, pauvre Séraphita, non, non, ce Balzac au cou de taureau ne pouvait pas être ton frère. » Et, sublime de réserve, Ruth se remet à fourrager d'une main dans les rostés qui jonchent le damier noir et blanc de sa couverture, jouant de l'autre avec une étrange plaque émaillée qui semble cadenasser d'ésotérisme sa poitrine sans sexe. Étrange, étrange, en effet, cette plaque d'émail qu'elle caresse sur sa poitrine sans sexe. Approchons-nous de grâce. C'est un émail chanlevé d'un point d'un goût barbare et futur, un énorme et splendide œil de queue de paon sous une paupière humaine, le tout encadré de cabochons exsangues. À Paris, un jour de mai, au bois, un pauvre diable, qui depuis quelque temps Ruth trouvait toujours sur son chemin, sortit d'un buisson, suivit sa voiture et jeta à ses pieds cette plaque d'émail en lui disant d'une voix toute naturelle « Pour vous seul !» En vous faisant observer que le jour où vous la quitterez, je me soustrairai à la vie. Or, un soir, comme elle entrait dans un salon, un monsieur s'évanouit à son aspect. Revenu à lui, ce monsieur balbutia que c'était non pour elle, mais pour la plaque d'émail qu'elle portait sur la poitrine, et qu'il la priait de lui céder cette plaque pour sa collection. Ruth refusa, raconta l'histoire, donna tout ce qu'elle savait du signalement de ce fou. L'amateur se mit en quête, échoua, languit, vint un jour chez Ruth et y rendit à la grande nature sa pauvre âme d'amateur de choses artificielles. Et voilà le grand secret lâché. Cette Ruth, cette charmante agonisante, par une insondable fatalité, passe sa vie à répandre le suicide sur son chemin de croix. Avant de venir attrister cette petite ville d'eau, Ruth opérait à Biarritz, et malgré son horreur du sang, elle voulut voir une course de taureaux à Saint-Sébastien. Ruth et son imperturbable frère se trouvaient au-dessus du Toril, dans la loge du gouverneur. Ah, comme elle vibrait dans sa large toilette d'étamine T, toilette sommairement drapée, s'emplissaient d'ivolants, hâtivement bâtis, avec l'entaille et bâcle d'un linceul, pour ne pas insulter, semblait-il, par une coupe trop accusée, un fini trop résistant à la désagrégation en dehors des modes et sans défendre celle qui devait la porter. Et il faut admettre que le sang bestial qui coulait là, bu lentement par le sable de la reine, supplantait celui de son cauchemar normal. Décemment, sans un haut le cœur, elle avait exulté déjà devant six haridelles éventrées à l'aveugle, quatre taureaux lardés d'entailles et finalement enfermés, et deux bandrios culbutés, l'un même blessé à la cuisse. Elle retenait chaque fois le bras du gouverneur-président, quand le cirque entier lui intimait de ses mille mouchoirs agités d'agiter le sien pour faire cesser le massacre des chevaux des picadors et appeler les bandrios. « Oh, pas encore, signor Presidente. Un engagement encore, c'est le plus beau. » Au cinquième taureau, une bordée de colibets s'était abattue sur le trop faible signor Presidente. Deux chevaux gisaient, râlant tendrement dans les parties pattes l'une de l'autre, attendant qu'on les achevât. On en ramenait deux autres, perdant des paquets de boyaux. Enfin, sur un signe, les lourds picadors vêtus de jaune s'étaient retirés, laissant le taureau seul, dans un silence près, en face du banderillo, qui l'attendait avec ses deux enrubanées javelines en arrêt. Il saignait, le pauvre taureau, de mains et raflures très réussies, c'est-à-dire à fleur de chair, pour exaspérer sans affaiblir. Il bondit, puis tourna court, revenant, flairé et retourné de ses petites cornes les masses flasques des deux chevaux géants, et se campant devant eux, le front bas, en sentinelle fraternelle, et comme cherchant à comprendre. En vain le banderillo, posant la plaie, le gouaillait, lui lança même son bonnet à grappes de soie noire dans les pattes. Le taureau s'obstinait à chercher, fouillant le sable d'un sabot colère, tout hébété de ce chant clos aux clameurs mélancolores, où n'éventraient que des rosses aux yeux bandés ou de rouges flottantes loques. Un capador enjamba la barrière et vint lui lancer au mur une outre dégonflée. On applaudit. Et alors, voilà que soudain, devant ces 20 000 éventails, palpitant dans un grand silence d'attente, à splendide ciel couvert, cette bête s'était mise, le col ostensiblement tendu vers Ruth, comme si seule elle était cause de toutes ces vilaines choses, à pousser au loin des packages natals, meuglement si surhumainement infortuné, si génial pour tout dire, qu'il y eut une minute de saisissement général, une de ces minutes où se fondent les religions nouvelles, tandis qu'on emportait évanouie et délirante, qui ? La belle et cruelle dame de la loge présidentielle. Et Ruth reprenait d'une façon déchirante son refrain. Le sang, là, sur le gazon, tous les parfums de l'Arabie. Et naturellement, Ruth ayant passé par là, l'hécatombe de taureaux et de chevaux devait se compléter bien étrangement en ce jour. Oui, ce signor Presidente, qui voyait notre jeune et typique héroïne pour la première fois, et sans autrement la connaître, cet être singulier, avec sa face de fièvre jaune et ses lunettes d'or, impassible et somnolent créole devant les exigences et les colibets de tout un cirque, se suicidait le soir même, laissant à l'adresse de Ruth, avec quelques bibelots, souvenirs de l'exil consulaire aux colonies exil qui lui avait fait sa lasse et étrange âme, disait-il. Une énigmatique et noble lettre, qu'heureusement Patrick put intercepter, renonçant d'ailleurs à saisir l'à-propos de cette épidémie de bizarre scène. Et qu'il ait conçu jamais, sinon celui qui règne dans les cieux. Les cloches ayant repris haleine comme des personnes, s'étourdirent encore un coup au sein de la nature irraisonnée qui ne sait pas si elle est plus naturée que naturante et n'en joint pas moins les deux bouts. On sentait approcher en rumeur la procession de celui qui règne dans les cieux. On entendait la fanfare. La procession parut. D'abord, deux enfants de chœur à robe garance, portant de l'air traditionnel et blasé, l'un l'encensoir, l'autre la haute croix de vieil argent. Puis, dans un piétinement de troupeau, une école de gamins. Deux par deux, endimanchés par de pauvres mamans qui se surpassèrent, toutes tenant le livre de cantiques, ouvert au fond de leur chapeau, piaulant traînardement des litanies vers les acacias en boule de la promenade. Les deux premiers, mis comme de petits bouts de bourgeois influents, arboraient une lourde bannière de moire usée, dont deux autres, moins influents, tenaient les glands. À un moment, le père de l'un d'eux, sortant de la haie des spectateurs, s'avança dans les rangs et, avec sa brosse à barbe et un air de la paroisse, remit en vigueur la raie pommadée du touchant Eliassin. Les quatre derniers de ce troupeau, les plus grands et tout pâles dans leur costume non de communiant, prêtaient l'épaule au brancard d'une civière où le Pietà, style rue Saint-Sulpice, était. Quatre chantres à gibus roussi, gantés sans nulle parcimonie, une violente écharpe en sautoir, surveillaient le tout, allant et venant, un poing sur la hanche, tels des sergents d'armes. Puis venaient des fillettes, angelots en sucre d'orge, tout en blanc, ceinturés d'azur, frisées et de muguet couronnées, les bras nus, portant des corbeilles pleines de pétales à semer. Quelques bourgeois, cossus, les escortant d'une ombrelle maternelle. Puis un pensionnat en toilette simple, noir d'uniforme, chantant un cantique d'une voix peu brave. Puis une cohue de rosières en blanc, quelques congrégations d'enfants de Marie, couronnées, gantées, excessivement décentes, convoyant çà et là une bannière, quelques civières à idoles plastiques, de vagues reliques de clochers. En blanc encore, une théorie recueillie de communiantes voilées à longs plis, les yeux baissés, les mains jointes en pointe, murmurant d'un commun accord des choses apprises par cœur. Ah, quand le cœur y est! Alors s'avançait, solide, précédé du corps des pompiers, l'Orphéon, un Orphéon de paysan boucané en redingote gibus, cuivre bousselé dans des retours de balles de noces, clarinette de jocrisse à la foire, et futaille de la grosse caisse dont la peau portait des bleus, le carton de musique fiché, sale, manipulé à l'instrument même. Ils écarissaient en ce moment la marche nuptiale du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn. Encore quatre fillettes choisies, avec leurs corbeilles pleines de pétales de roses à semer, et c'était enfin, ces quatre rampes tenues par des gens de poids, le dais rose à franges d'or, abritant l'ecclésiastique officiant, lequel, pompeux au dehors mais en lui-même anéanti, offrit à ses fidèles de grand chemin le soleil légendaire du Très-Saint-Sacrement. Et le dais fit halte devant le reposoir de l'hôtel de France. Oh, pas étouffé d'édifiante onction, silence en plein jour au soleil, sonnette tintant grêle et sacrée comme à la messe au moment de l'élévation, coulant sans soir. Oh, ce Saint-Sacrement était évidemment le clou de la procession. Les messieurs s'étaient découverts, nombre de dames s'agenouillaient au bord du trottoir. Nul élégant sceptique ne prit la parole. Oh, silence en plein jour au soleil, sonnette tintant grêle et sacrée comme à la messe au moment de l'élévation, encensoir élevé par nuages d'hommage. Tout le monde était aux anges, mais pour Ruth, l'infortunée et typique héroïne que j'ai assumée, ce silence fascinant à crier, cette sonnette grêle et implacable comme un jugement dernier, n'est-ce pas l'appareil des désolations, des injustes vallées d'outre-tombe, où erre l'autre, le suicidé par trop d'amour, le suicidé sans phrase, avec son trou au front. Elle déjoint ses mains fébrilement pieuses, et s'accrochant au bras de son frère, la voilà qui se met à vagir du fond de ses limbes somnambulesques. Le sang là, sur les gazons, tous les parfums de l'Arabie. Ô Patrick, si seulement je savais pourquoi, moi plutôt qu'une autre dans ce reste du monde où notre sexe est en majorité. Et Patrick pouvait lui crier à la fin et devant tout le monde. « Mais c'est toi qui as commencé !» Mais non, il lui caresse les mains, il lui donne son flacon de sel de musc, doucement, et attend sans scandale, bien que la sentant évanouie. Le prêtre, porteur du Saint-Sacrement, se tourne ostensiblement un instant vers la riche jeune malade, et la gratifie à distance d'un remuement de lèvres de son saint ministère. Et au même moment, on voit une petite fillette poussée par un jeune homme qui, radieux et crispé, se tient là, sortir des rangs, et rouge de honte, mais comme subissant des ordres terribles, monter le perron et venir effeuiller autour de la chaise longue de la pauvre et évanouie toutes les roses roses de sa corbeille. Elle faillit d'ailleurs tomber en redescendant. Il y a dans la vie des minutes absolument déchirantes, déchirantes pour toutes les classes de la société. Oh, celle-ci n'en fut pas, mais il en est, et l'exception ne serait que confirmer la règle. La procession se remettait en marche. Le Saint-Sacrement allait maintenant encenser la Sainte Thérèse d'un hystérique rococo polychrome de l'hôtel d'Angleterre, avant d'encenser à son tour le blason reposoir de la Duchesse H. Les cantiques avaient repris en tête, et la queue de la procession défilait. Elle défilait, la queue de la procession. D'abord les valets de la reine déchue, puis sur deux files, tout un sénat de bourgeois, chapeau à la main, indélébiblement stigmatisés par leur métier, des apoplectiques bouchés aux pâtissiers pâles, puis des paysans voûtés, stratifiés, crâne malvenu, le béret à la main, deux ou trois avec des béquilles, quelques-uns solitaires se racontant des oraisons, puis les sœurs de charité, larges manches en manchons, cornettes aux ailes palpitantes comme des Saint-Esprit, monstrueusement empesées par une religion aux rites envolées, puis des dames à ombrelles et des hommes, puis des paysannes à châles d'antan, à goitres tannées, et de distance, un homme ou une femme égonnait un chapelet à haute voix, tandis que les voisins murmuraient les répons. Et la procession de la fête-Dieu finissait par finir, bêtement tronquée, sur un timide groupe de bonnes. et le public indépendant s'écoulait dans la poussière et les pétales foulés vers les déjeuners à la carte. Cependant, tandis qu'on défait le reposoir, adieu panier, vendanges sont faites, Ruth s'est réveillée. Elle regarde, elle exulte, une main sur la plaque d'émail qui cadenasse sa poitrine sans sexe, et de l'autre montrant autour d'elle. Oh, Patrick, Patrick, vois des roses à la place. Plus de sang, mais des roses d'un sang passé et désormais rachetées. Oh, donne-moi une, que je touche.
Tiens, mais c'est pourtant vrai, fait Patrick, sans y penser, d'instinct tendre et tout à sa sœur.
Oh, du sang changé en rose, en vérité. Alors il est sauvé, Patrick.
Ah, il est, ma foi, sauvé.
Elle emplit ses mains de ses pétales et sanglote dedans. Oh, le pauvre, maintenant je n'ai plus à m'occuper de sa situation. Et cela s'achève en une canne de toux qu'il faut arroser de cet éternel sirop benzoïque. Et en effet, grâce aux roses roses, si à propos effeuillée là de cette fillette anonyme, Rose et Ruth étaient exorcisées de ses hallucinations et pouvaient désormais s'adonner sans partage au seul et pur travail de sa tuberculose. Elle reprit le journal d'une plume trempée dans un encrier à fleurs bleues, genre Delft. Inutile de dire que ne sut jamais que le soir même de cette fête Dieu, le frère de la fillette à la corbeille de roses miraculeuse se suicidait à son adresse dans une chambre d'hôtel, sans autre témoin de l'état de son pauvre cœur que celui qui règne dans les cieux. Mais le miracle des roses était accompli dans toute sa gloire de sang et de roses. Alléluia !